I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, nouvelle overtime cette semaine après le podcast 202 de Duck Hebdo. Pour cette overtime, la rotation change un peu, les rookies vont voir le parquet, puisque c'est moi Adrien qui vous parle, et je suis tout d'abord accompagné de Madiane. Comment ça va Madiane?
À confiner, vous?
Eh ben ça va, confinement bien. Et pour apporter un peu de présence de vétéran sur le terrain, il y a Tom qui est là aussi. Ça va Tom?
Ouais, tranquille, et toi?
Eh bien très bien. On est là donc tous les trois pour un nouvel overtime, un overtime un peu de fiction à base de voyage dans le temps aujourd'hui et dans le basketball évidemment. On va se demander quel joueur de l'histoire, alors histoire plus ou moins récente, si on a vu ou non, des stars ou non d'ailleurs. On va voir ça donc parmi ces joueurs qui auraient pu avoir une très belle carrière, un bon impact sur le jeu s'ils jouaient à notre époque, donc grosso modo fin décennie 2010, début 2020. Des joueurs peut-être extérieurs en avant sur leur temps ou des beaux bébés qui domineraient dans la peinture, tout est possible évidemment. Et donc on va commencer avec toi Madiane, quel premier joueur aurais-tu aimé voir jouer de nos jours?
Alors mon premier joueur est un ancien joueur des Spurs, c'est David Robinson.
Vraiment?
Tu l'avais deviné. Pourquoi? Parce qu'en fait ce dont tu as envie pour un éventuel poste 5, c'est-à-dire que il est très bon défensivement, il a une mobilité et surtout une technicité qui font qu'il n'est pas handicapant. Et malgré tout, effectivement, son époque a fait qu'il n'a pas tiré à 3 points, mais je suis pas sûr que ce soit le type de joueur qui aurait jamais pu développer un tir ne serait-ce que correct. Effectivement, bon, le nombre de tentatives qu'il a eu par match à son époque était tellement bas que les stats sont pas significatives, mais les indices pour ce que j'en ai vu me laissent quand même à penser qu'il n'était pas incompétent au niveau de son tir et que cela aurait pu se passer et qu'il aurait pu le développer. Et avoir un mec avec une telle mobilité, une capacité à venir sur tes extérieurs extrêmement important.
C'est ça pour les switch et tout.
Ah mais il peut venir sur tes postes 3 sans souci. Clairement, moi je trouve que sa mobilité latérale est folle et je pense que dans la NBA moderne, il aurait pu mais vraiment vraiment avoir un énorme apport. Et je cherchais un peu une comparaison et j'en avais parlé lors d'un autre podcast. Moi, il y a un joueur qui m'y fait penser. Alors, il en est très loin, mais très loin. Mais il m'y fait penser, c'est Jaren Jackson Jr. Que Tom connaît bien. Et je me dis que c'est un peu ces atouts-là, avoir une telle mobilité et rien qu'avec sa mobilité, sa capacité à switcher, avoir un tel impact dans ton équipe. Clairement, c'est l'un des joueurs qui m'y fait penser le plus.
Un peu plus explosif, un peu plus solide quand même qu'un Jaren Jackson Jr. Entre un Jaren Jackson Jr. et un espèce de PJ Tucker, quoi.
On pourrait dire ça.
Ouais, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est un sujet qui va revenir souvent, le côté, ce que tu mentionnais au début, c'est intéressant de, c'est vrai que si ces joueurs qu'on mentionne avaient été, draftés, auraient fait leur début de carrière dans cette fin de décennie 2010, ils auraient été formés peut-être autrement, donc auraient peut-être développé un shoot, par exemple, pour ceux qui l'avaient pas. Donc, effectivement, c'est un sujet qu'on risque de revoir. Une remarque, Tom, ou tu veux donner ton premier joueur?
Par rapport à Jaren Jackson Jr., il y a peut-être certains points qui peuvent paraître similaires entre les deux dans le style. Mais après, je trouve que Jaren Jackson Jr., il a plus un jeu d'extérieur que l'avait Robinson, en fait.
Ah oui, clairement.
Il a totalement, enfin, Jaren Jackson, il a, c'est comme s'il a un jeu de délié, quoi. Il a vraiment un jeu de délié, très très porté en fait sur le périmètre et défensivement il est très très loin de ce que pouvait faire Robinson.
Ah, clairement Robinson avait développé son jeu au poste, mais il n'aurait jamais développé son jeu au poste s'il était arrivé dans notre génération actuelle. C'est pour ça que c'est très difficile au niveau de la comparaison. Clairement, offensivement c'est sûr, au niveau de la comparaison c'est impossible.
C'est ça. Et eh ben écoute Tom, je t'en prie, cite-nous un autre nom, fais-nous plaisir.
Alors moi, mon premier joueur, du coup, c'est un joueur que vous avez certainement connu, mais vous l'avez connu, il n'était pas si bon que ça, puisqu'il était sur la fin. Moi, c'est Deron Williams. Deron Williams, c'est un joueur
Ah.
que j'ai beaucoup aimé, qui a été drafté du coup en même temps que Chris Paul, qui a fait les beaux jours de la franchise d'Utah et qui est parti après aux Nets
Honnête, c'est
dans un petit imbroglio avec le coach de l'époque, Jerry Sloan. Et
vrai.
en fait, moi, c'est un joueur que j'aimais énormément voir jouer. C'est un joueur qui était très puissant en fait du haut du corps, qui était un très très bon manieur de ballon, très fort sur tout ce qui est changement de direction, shoot après dribble, très bon pour pénétrer dans la raquette, pour shooter à 3 points, maestro
Lecture du
du
pick and
pick and
roll.
roll, ouais, maestro
Ouais.
du pick and roll. Donc moi franchement c'est un gars que je vois bien en fait dans l'attaque actuelle avec l'héliocentrisme. C'est un joueur que je vois un peu comme un peu comme ce que qu'aurait fait peut-être ce que fait un Damian Lillard en fait aujourd'hui. Alors oui, il est un petit peu plus grand, il est plus costaud, il a un sens de la passe un petit peu plus naturel que Lillard, mais je pense que c'était vraiment le type de joueur qu'on aurait aimé voir dans l'NBA dans l'NBA moderne. Mais quand ce joueur-là était à son prime, c'était vraiment un joueur exceptionnel à avoir joué. Je pense que dans l'NBA d'aujourd'hui, il ne serait que plus fort.
Ah oui, bah il était déjà considéré comme le meilleur meneur de la ligue, ou pas loin en tout cas.
Et
Effectivement, il a
Chris
tout le
Paul à
skill
l'époque.
set. Oui, voilà, avec Chris Paul, il a tout le skill set du meneur que tu as envie. Alan en parlerait bien. C'est si tu vois ce profil-là arriver dans une draft, il aurait son stock qui augmenterait très très vite avec sa panoplie. Effectivement. Madiane, quelque chose à dire sur Deron?
Ah, Deron, clairement, c'est presque dommage en fait sa fin de carrière en Renaud Boutin, parce que quel joueur ça a été. Et clairement, je pense qu'il se serait éclaté dans le jeu actuel. C'est peut-être quelqu'un qui a pu être parfois bridé par son, même si c'est récent, il a pu parfois être bridé, alors que c'est qu'on aurait pu lui filer l'entièreté des clés en main. Moi, je me souviens notamment à Utah, mais qu'est-ce qu'il était fort à ce moment-là.
Bam.
À son passage à Utah, enfin, à la fin de son passage à Utah, c'est...
Carlos Boozer lui doit pas mal, un
Pas
peu
mal
d'argent sur
d'argent.
ce contrat.
Ah, bah,
d'argent,
il lui doit une carrière.
Ah, j'irai pas jusque-là quand même.
C'était avec Mehmet Okur, non, qui jouait?
Ouais, c'est ça, il a eu l'avantage de jouer avec un stretch 5 déjà, tu vois, avec au cours stretch 5.
Ouais, bah, ça aurait presque pu être une équipe moderne, hein.
Ouais, c'est sûr qu'il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Bah, c'est un peu, c'est un sujet qu'on va revoir aussi au long de cet overtime, quoi. Des gens un peu en avance sur leur temps ou à contre-temps, on va dire, d'une certaine époque. Et ben, je vais rester aussi dans les meneurs, moi. Pour le premier joueur que je vais citer, ça étonnera pas ceux qui ont écouté le podcast 200, parce que je vais parler de Gilbert Arenas.
Ah, et il a
Le
pas
bon
fait le cut,
Gilbert.
mais il était pas loin chez moi.
Le bon Gilbert.
Ouais, voilà, parce que on parlait du skill set du meneur, t'en parlais là, Tom, de la capacité de pull-up en sortie d'écran. L'héliocentrisme, bah, c'est la définition de Gilbert Arenas aux Wizards, où le gars était un peu tout seul. Voilà, c'est un joueur qui a une panoplie qui correspond totalement à ce qu'on voit dans le basket maintenant. On parle évidemment du basketteur et pas de l'homme, hein, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, capacité à pull-up de très loin, même si bon, ses pourcentages en carrière sont assez limités. Mais bon, il y a une sélection de shoot, il y a plein de choses. Mais voilà, déjà une capacité à shooter de très loin, une capacité à pénétrer. Il était assez physique aussi, Gilbert Arenas. Si on devait faire une comparaison, moi, ce serait un mix entre toute proportion gardée en termes de niveau de jeu, mais je parle plus de style, entre Harden et Lillard, peut-être quelque chose comme ça, quoi. Une capacité à aussi aller chercher la faute, à pénétrer, très puissant. Voilà, moi, Gilbert Arenas, c'est déjà, il m'a fait kiffer à l'époque. Je n'ai pas honte de le dire. Et là, je pense que là, maintenant, il s'éclaterait. Et avec un peu de chance, il serait un peu plus cadré dans le vestiaire, mais ça, c'est un autre sujet, bien sûr.
Très très puissant du haut du corps, Gilbert Arenas. Très très puissant du haut du corps, gros premier pas, une grosse technique pour attaquer l'arceau, enfin, notamment sur tous les angles, en fait, la façon dont il attaquait le panier, sa façon de partir, le positionnement de ses pieds, de ses hanches. Il était très technique en fait pour ça, et c'est pour ça que je pense qu'il se permettait de passer, de blow-by beaucoup de gens, quoi, puisque il avait une bonne technique. Il était très puissant aussi du haut du corps, ce qui fait que quand tu arrivais contre lui, tu pouvais pas rester en face de lui en fait.
Ouais, non, mais il y a ce truc qu'Harden, enfin, moi, Harden, parfois, me fait penser un peu à Arenas sur cette technicité du 1 contre 1 à la pénétration. Il y a un espèce de jeu de dupe, d'anticipation et de gestion de ses appuis et de son corps et du rythme, d'un espèce de faux rythme, parce que c'était pas le plus rapide, le plus vif, mais où il arrive à mettre le défenseur à contre-temps, etc. Et ce serait super à voir.
Et c'est moi, il y a un truc dans ses meilleures années, c'est sa capacité à chercher la faute. clairement, ça c'est un truc, mais c'est tellement, tellement important actuellement d'être capable d'aller chercher ces points qui sont, entre guillemets, faciles à mettre, mais enfin, faut aller les chercher, mais c'est des points vraiment très, très importants dans les statistiques. Choper des lancers francs, attaquer le cercle, tirer à 3 points. Il n'avait pas tellement un jeu, il n'avait pas un jeu de son époque, clairement. Sa capacité à attaquer le cercle, son tir qui est quand même très bon, hein. Les pourcentages sont suspects, mais au vu de sa façon de jouer, c'est le cas. Et surtout,
et du supporting cast.
Et surtout, faut pas oublier que la deuxième partie de carrière après sa blessure n'est presque pas à prendre en compte, parce que c'était fini. C'était clairement fini à partir de ce moment-là. Et si tu te concentres un peu plus sur ses meilleures années, son pourcentage à 3 points, il n'est pas inférieur à celui d'Harden.
Ouais, ouais, il doit tourner autour de 36-37, quelque chose comme
ça. Ouais, c'est ça, il est autour de 36-37, et pour moi, c'est pas suspect, clairement.
Gros coureur, Gilbert Arenas. Vraiment,
gros
coureur de génie.
Ah bah bon, c'était le sujet de l'ancien overtime, mais si vous voulez vous mettre des matchs, il y a un match entre Gilbert Arenas et Kobe Bryant, parce que je vais même pas citer les équipes, ça sert à rien,
quand, où il tente 60 et 40. Points, ouais.
Voilà. Il met 60 points, c'est le deuxième total au Staples derrière les 80 de Kobe. C'est incroyable à voir.
Et bon, je crois que Kobe se fend d'une déclaration à ce sujet en mode putain, le gars est fort, quoi. Après le match.
Et si Kobe le dit, voilà. Bon, on va pas monopoliser sur Gilbert quand même, même si mon amour pour lui, on pourrait en parler tout le long de l'overtime. Mais du coup, bah, retour à toi, Madiane. Est-ce que t'as un deuxième joueur? Est-ce que toi, tu vas nous rejoindre sur les extérieurs ou tu continues avec un intérieur?
Allez, les extérieurs. Je vous rejoins et je pense que c'est un pic assez évident. Le plus grand show des années 2000 dans la NBA, Steve Nash. Ah bah là, clairement, qualité de shoot, playmaking. Allez, c'est fini, emballé, c'est pesé. Mais si
il
joue actuellement.
Ouais, mais tu triches, il est double MVP le mec. Hein.
Il est double MVP, mais il jouait à une époque. Et D'Antoni a déclaré, moi j'ai trouvé ça très intéressant, qu'il regrettait de ne pas être allé au bout de ses idées avec Phoenix. Et clairement, Steve Nash actuellement aurait pu aller au bout de l'idée du jeu qu'on pouvait avoir. Et clairement, je pense qu'au niveau de ses tentatives à 3 points.
Il en aurait pris plus.
Il n'y en a pas énormément. Au vu de sa qualité de shoot, le nombre de tentatives aurait sensiblement augmenté. Et franchement, je pense qu'il n'a pas, eu des totaux ou des moyennes de points ultra impressionnants en saison. Je pense que dans la NBA actuelle, il les aurait eu parce que, à la fois, l'augmentation du rythme. Phoenix était la meilleure pace à l'époque. Aujourd'hui, ce serait l'une des pires. Faut se rendre compte du délire, hein. Phoenix, qui était la meilleure pace à cette époque-là, aurait été actuellement l'une des pires. Donc, clairement, avec l'augmentation du rythme, le fait d'avoir plus de tirs à 3 points, ça aurait été magnifique, clairement. Et c'est peut-être l'un des premiers joueurs que j'ai coché. J'ai coché Robinson avant et j'en ai parlé avant, mais le premier joueur, c'est Steve Nash, parce qu'il était déjà très fort, double MVP. Mais qualité de tir, playmaking, jeu en pick and roll, aucun en défense et limite.
Ouais,
voilà,
c'est ce que j'allais dire. Il aurait fallu un petit peu le cacher, mais
limite, on s'en fout plus. Voilà, c'est ça. On s'en fout plus actuellement de ces problématiques de défense. Donc, ça aurait été encore mieux. Donc, clairement, Steve Nash, ça aurait été incroyable actuellement.
Ah bah un pick and roll Steve Nash David Robinson en 2020, ce serait sympa. quelque chose à ajouter, Tom, ou tu veux nous donner ton deuxième joueur déjà?
Franchement, Steve Nash, c'est le rêve, quoi. Enfin, mais je trouve que sa carrière est quand même. Enfin, le mec est double MVP.
Oui. Et ça aurait été pire.
Ouais, c'est vrai, ça aurait été. Ouais, il aurait été.
Mais certains critiquent ses MVP, peut-être il en aurait eu des unanimes, qui sait.
Ouais, c'est vrai. Du coup, moi, toujours pour rester dans la conférence Ouest. Je vais passer au niveau du poste d'ailier et j'ai parlé d'Aaron Williams comme premier joueur. Moi, j'aurais beaucoup aimé voir André Kirilenko dans l'NBA actuel, en fait. André Kirilenko, c'est le prototype du couteau suisse parfait, l'espèce de role player parfait que tout le monde cherche aujourd'hui. Il peut tout faire, il était capable de sanctionner offensivement, il était capable de se coltiner le meilleur défense, le meilleur attaquant adverse, qui soit arrière, ailier, voire même poste 4. C'est un joueur qui, dans la NBA d'aujourd'hui, aurait été certainement poste 3 pour démarrer dans un line-up classique, mais qui aurait surtout certainement
ball, ouais.
joué 4 small ball, mais surtout small ball 5. Je pense qu'il aurait très bien pu jouer le rôle de small ball 5 puisque c'est un joueur qui était assez grand avec une grande envergure, très fort défenseur de périmètre, mais aussi très fort dans tout ce qui était aide défensive. Donc moi, enfin, si je devais le comparer à un joueur aujourd'hui, le joueur qui a le jeu qui me rapproche plus, qui me rappelle plus Kirilenko, c'est Jonathan Isaac d'Orlando.
Ouais.
C'est vraiment le joueur qui
la vision de jeu en moins quand même.
La vision de jeu en moins, mais tu vois, dans le style, la défense, la polyvalence défensive, le fait d'être très fort sur des intérieurs, des extérieurs, d'être très polyvalent, moi, c'est le type de joueur, en fait, qui me rappelle ça, notamment défensivement.
Ouais, il serait très, très précieux. C'est vrai qu'à K47, ouais. Tu vois, j'y avais pas du tout pensé, mais là, tu me le dis, j'ai envie de le mettre en haut de ma liste, pratiquement.
Ouais, tu peux le mettre partout.
Ouais, il serait hyper précieux. Madiane, ouais, toi aussi, ça te branche à K47?
Ah, carrément, carrément. Et en plus, enfin, moi, je me suis, enfin, le début, c'est vrai que vers la fin, Utah, ça toussait un peu plus, mais son début de carrière, clairement, tu te dis, mais il t'apporte beaucoup, beaucoup de choses sur un terrain. Et c'est vrai que c'est peut-être pas ton meilleur joueur, mais ce serait le premier que tu mets dans ton équipe.
À la manière d'un Draymond Green.
Ouais, c'est ce genre de joueur. Tu t'en as besoin. C'est pas lui qui va te mettre le plus de points, etc. Mais c'est ta glue pour tenir ton collectif. Et on se rend pas bien compte. Donc ouais, j'aurais bien aimé le voir actuellement, clairement.
Eh ben écoute, moi je vais rester à l'aile aussi avec un joueur peut-être aussi un peu plus dans un rôle qui joue à Sacramento et c'est aussi un Européen. C'est Peja Stojakovic.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà, parce que Peja Stojakovic, donc pour ceux qui le connaissent peu, donc il a sévi avec les Kings de Chris Webber notamment, qui était un ailier, un excellent shooter, genre un shoot splendide et qui justement donc à une époque où peut-être c'était un peu plus limité sur sa prise de 3 points, pas mauvais en défense, capable de défendre et je pense qu'il s'éclaterait en 2020, ce serait vraiment le 2-3 que tout le monde chercherait parce que voilà vraiment est capable de prendre feu comme voilà une esthétique. Moi Peja Stojakovic, c'est un des joueurs que j'ai vraiment vraiment aimé voir jouer et je pense qu'il aurait été vraiment excellent aussi maintenant. Ça nous fait beaucoup d'Européens quand même, non?
Effectivement, ouais.
En développement un peu moins, je peux te mentionner Chris Bosh.
Ouais.
Ah, il débarque maintenant, c'est un délire. Je pense que clairement, il aurait pu apporter tout ce dont tu as besoin, mais de manière élite. Clairement.
Dans le même esprit, Pogazol, tu vois.
Ah ouais.
Pogazol, peut-être un peu moins.
Parce que le poste.
Même si Pogazol, c'est un joueur qui défensivement, je trouve, était souvent bâché, mais qui savait bien utiliser sa taille et ses longs bras, même si c'était pas le mec le plus dynamique sur le périmètre. Mais ouais, c'était pas David Lee quoi défensivement tu vois. Mais
pas
même
du tout.
Mais pour Chris Bosh en fait, enfin même tu vois la période de la période hit.
Oui.
Ouais, oui.
La période hit. Donc ouais, enfin
bah, la période hit, c'est la preuve qu'il aurait marché dans les années 2020 en fait.
C'est ça. Alors qu'il était déjà très fort à Toronto, hein. Il était incroyable à Toronto.
Ah bah oui.
Chris Bosh.
Ouais.
Moi, j'avais un autre joueur du coup dans ma liste. Alors moi j'ai Danny Granger. Alors Danny Granger, c'est joueur d'Indiana, c'est le seul joueur de l'histoire de l'NBA à avoir progressé au scoring de 5 points de son année 1 à son année 4 tous les ans, s'il lui a valu un MIP, qui est en gros un ailier scoreur, vraiment scoreur qui aurait joué en fait si tu veux Danny Granger, c'est un peu Jason Tatum en gros. Enfin dans le style de jeu, tu vois la beauté, l'esthétisme, c'est un joueur qui me rappelle, enfin Tatum me rappelle vraiment Danny Granger dans, tu vois, le jeu d'appui, le fait de fuir un petit peu le contact, d'être très technique, d'être dans son propre rythme. Donc moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup sur Danny Granger et malheureusement il a eu des blessures au genou qui malheureusement ça a
qui ont fait rater son association avec Paul George
qui aurait été énorme.
Ouais.
C'est vrai. Sinon, dans les autres meneurs, je crois qu'il avait été mentionné aussi par Elias dans le podcast d'avant, mais je pense que Penny Hardaway pourrait être sympa.
Ah bah ouais. Bah, ah oui. Lui, enfin bon, bref.
Et puis dans les plus vieux, alors ça pas vu jouer, mais je pense que dans l'esprit sur les highlights qu'on peut voir, ce que j'ai pu lire, il y a Pistol Pete Maravich.
Ah oui 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 oui. Voilà. Bah, lui voilà. Lui est anachronique hein. Il est anachronique.
Ouais, voilà.
Hein.
Partout.
Ouais. Jerry West hein, dans les anachroniques, un shoot apparemment très très bon. J'ai vu très peu de matchs, hein. J'ai vu vite fait, mais
forcément.
De réputation, ça aurait pu.
Ok, envie de mentionner encore quelqu'un ?
Ouais, moi j'en ai juste un petit dernier.
Vas-y, vas-y.
Mitch Richmond, parce que pourquoi ? Parce qu'en plus, ouais, Golden ouais. State. Et pour moi, c'est c'est un Clay Thompson de l'époque.
Le Run TMC, gros.
Ouais, ah. Ouais, ouais, mais très bon en défense. Solide derrière l'arc, vraiment, mais en défense, peut-être un des joueurs les plus sous-estimés de cette époque-là, parce qu'on mettait pas en exergue la défense
en avant, ouais.
Des extérieurs.
Ah bah, du coup, tu me fais penser à un autre joueur des Spurs, Garvin, qui aurait pu, qu'on pourrait mentionner aussi comme ça, gros scoreur, qui aurait pu peut-être faire quelque chose. Bon, après, ça, c'est pareil. C'est des joueurs là, pour le coup, j'ai très très peu vu d'images, donc c'est des noms qu'on a en tête parce que c'est des profils qui reviennent, mais. Plus difficile à dire, je vais pas l'affirmer au effort quoi. Un autre nom, Tom aussi ou that's a wrap comme disent nos Américains.
That's a wrap man.
Et bah très bien, merci beaucoup les gars. Comme d'habitude, donc vous le savez, vous retrouvez tous les épisodes de Dunk Hebdo et donc les Overtime maintenant qui sont sur toutes les plateformes de streaming. On continue aussi d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il y a le DH20 qui est toujours en cours. Vous pouvez voter pour votre top 20 des joueurs NBA donc par les auditeurs de Dunk Hebdo. Ça arrive bientôt, évidemment, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. D'ici là, bien sûr, bah, portez-vous bien. Respectez les consignes de sécurité sanitaire, bien entendu. Et bah, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci, les gars.
Salut. Merci, salut.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.